Par le père Philippe Arimont, le 13 mai 91.
Ne peut croître qu'avec la prudence. Ça, je crois que c'est quand même un aspect qu'il ne faut jamais oublier. Vous voyez, l'amour d'amitié est au-delà des vertus, mais l'amour d'amitié ne peut croître que si les vertus commencent à naître en nous. Puisque la prudence, c'est la première vertu cardinale. Et avec la prudence, c'est la tempérance, c'est la force, c'est la justice. Je crois que ça, c'est important, parce que dans l'ordre éducatif aujourd'hui, n'ayons pas une éducation qui porte sur les vertus, parce que ce n'est pas ça qu'il faut. Ayons une éducation à l'égard de nous-mêmes, hein. Parce que quand on arrive à un certain conscience de ce qu'on est, on doit s'auto-éduquer. Et jusqu'à la fin de votre vie, vous aurez ça. Pas dire, va comme je te pousse, hein. Non, il faut vous prendre en main. C'est ça, se prendre en main. C'est l'auto-éducation. Alors, on cherche toujours la finalité. Vous vous éduquez dans la mesure où vous êtes de plus en plus finalisé. Autrement, vous vous enlisez. Il y a un climat qui vous fait retomber sur votre conditionnement et qui vous empêche de découvrir votre finalité. C'est un climat qui vous délimite, qui enlève toute la force. S'il n'y a pas de finalité, il ne peut pas y avoir acquisition des vertus. Et une fois qu'il y a cet amour d'amitié qui naît, dont on est responsable pour la croissance, il faut l'acquisition des vertus. C'est nécessaire, pas possible autrement. Autrement, tout se corrompt. Alors, c'est là où vous voyez tout de suite comment, dans cette acquisition des vertus, de la prudence, l'autorité va aider l'exercice de la prudence. Ça, ça me semble très important. Vous voyez, bien nouer ces choses-là. Et ne pas les prendre n'importe comment. C'est l'ordre des moyens et de la fin, tout simplement. Et l'autorité porte sur les moyens, pas sur la fin. Or, l'amour porte sur la fin, donc il n'y a pas d'autorité. Les éclosions de la fin ne dépendent pas du tout de l'autorité. Pas de maître, exercer l'autorité sur quelqu'un, je veux que tu aimes. Mais non. Ça aurait beau dire indéfiniment, je veux que tu aimes. J'exerce sur toi cette autorité pour que tu aimes. Non. Ce sont des éclosions qui relèvent directement de notre nature humaine, de notre esprit, de notre volonté, notre appétit spirituel. Alors ça, je crois que vous voyez suffisamment. Et vous voyez suffisamment aussi que la famille se structure sur cette amitié. Ce que je vous disais la dernière fois. La seconde finalité, alors elle est importante, elle est très importante, elle est essentielle. Je n'ai pas le droit de la supprimer. Et la supprimer est une cause suffisante pour montrer qu'il n'y a pas eu de véritable amitié. Donc une cause suffisante pour montrer qu'il n'y a pas de mariage. Parce que vous savez bien, c'est un cas de nullité du sacrement de mariage. Si l'un des conjoints, en se mariant, a pris la décision de ne jamais avoir d'enfant. C'est un cas de nullité. Alors, c'est le droit canon, c'est pas de la philo. Hein. Mais le droit canon est un signe pour le philosophe. C'est un signe. Si l'Église fait ça, ça prouve que ça se fonde naturellement. Et pourquoi ça se fonde naturellement? C'est que l'amour d'amitié entre les conjoints dans le mariage implique naturellement la fécondité. La fécondité est une conséquence essentielle de l'amour d'amitié de l'époux et de l'épouse. Et c'est pour ça que l'amputation de la fécondité, la volonté expresse qu'il n'y ait pas de fécondité, montre qu'il n'y a pas d'amour d'amitié. Pas très loin, ça, je crois. Il faut pouvoir le prouver philosophiquement, oui. Je crois que c'est très très important, ça, dans le monde d'aujourd'hui, de pouvoir affirmer avec force à quelqu'un qui dit ça, et bien ça prouve que vous aimez pas, c'est tout. Et le dire en toute vérité. Et ça, ça ébranle les gens, vous savez. Expliquez un peu pourquoi. Et oui, parce que l'amour d'amitié de l'époux et de l'épouse implique le don des corps. Et si ça implique le don des corps, ça implique l'union sexuelle, qui, elle, implique la possibilité de la fécondité. L'homme ne commande pas la fécondité, mais l'homme peut, en connaissant les cycles de fécondité, l'homme peut prudemment donc harmoniser, mesurer la modalité de la fécondité, mais pas la fécondité comme telle. La fécondité touche la finalité. Mais le temps de la fécondité ne touche pas la finalité. Et donc ça relève de la prudence. Comprenez bien ça, parce que c'est les objections qu'on vous fourre tout le temps, ça. Enfin, l'Église accepte par exemple la méthode, les méthodes naturelles de régulation des naissances. L'Église accepte la méthode Billing. Et elle interdit la pilule. Il faut montrer que c'est tout à fait différent. Vu de l'extérieur, on dirait, mais c'est la même chose. Mais non, c'est pas du tout la même chose. D'un côté, c'est la prudence, et de l'autre côté, c'est la finalité. La prudence regarde les moyens. Elle est liée au temps et au lieu. Alors, il faut pouvoir montrer ça, parce que ça fait partie de ces objections constantes qu'on donne aujourd'hui, qu'on montre aujourd'hui. C'est là où le point de vue de l'intelligence, vous voyez, de la philosophie, est nécessaire pour montrer la différence. Donc, comprenons que la fécondité est liée essentiellement à l'acte conjugal. Et que l'homme n'a pas de dominium sur la fécondité. La fécondité est attachée à l'amour naturel de l'homme et de la femme. Au sens le plus fort. C'est pas quelque chose qui est extrinsèque à l'amour de l'homme, du mari et de l'épouse, et de son épouse. C'est essentiel. À cause du don des corps. Vous voyez, c'est ça qui permet de comprendre que dans l'homosexualité, l'Église interdit. Parce que justement, le don des corps est lié à la finalité et à la fécondité. Et dans, comme on dit aujourd'hui, l'homophilie, n'est-ce pas? C'est beaucoup plus distingué. Alors, dans l'homophilie ou l'homosexualité, on prétend que l'amour d'amitié implique le don des corps. Et il faut voir que le don des corps est impliqué pour la fécondité. Autrement, vous serez dans le pétrin, dans des corps qui se multiplient aujourd'hui. Hein. Qui se se multiplient. Alors il faut quand même être très attentif là-dessus. Est-ce qu'on a la permission de faire, par exemple, une communauté d'homosexuels en disant ça peut être chrétien? Alors, comment ça ne peut pas être chrétien intrinsèquement? Il faut pouvoir le justifier philosophiquement. Parce qu'aujourd'hui, je l'ai déjà dit, hein, je crois, qu'à Fribourg, il y avait eu la question d'une thèse, de théologie, hein, sur l'homosexualité, l'homophilie, pour montrer qu'il n'y avait aucun texte de l'Écriture qui l'interdisait. Alors, c'était très intéressant au niveau du conseil théologique. D'habitude, c'est pas très drôle, les conseils de faculté. Là, c'était très intéressant parce qu'on touchait un aspect doctrinal. La faculté s'est divisée en deux. Vous vous montrez à quel niveau ça se situe. La faculté s'est divisée en deux. Il y avait la moitié de la faculté qui était pour, en disant méthodologiquement, cette thèse est parfaite. La méthode, parfaitement réalisée. Alors là, elle soulevait la question, mais est-ce qu'on peut accepter une thèse de théologie qui soit contraire à l'enseignement du magistère? Et là, la faculté s'est divisée en deux. Mais c'est ces petites choses-là qui sont des petits signes très intéressants pour voir où en est l'état de la théologie. Parce que c'est un état de maladie. Faiblesse. Une thèse de théologie dépend directement de la foi. Et notre foi chrétienne a comme mesure l'enseignement actuel du magistère. Si vous êtes chrétien et catholique, c'est-à-dire parfaitement chrétien, vous ne pouvez pas avoir la mesure de votre foi en dehors de l'enseignement actuel. Parce que l'enseignement actuel du magistère fait partie de notre foi. Ça, il faut que ce soit très net, je vous le demande. Hein. Si c'est pas net dans votre esprit, essayez de faire sortir l'objection. Et vous devez le faire maintenant. Mais si c'est pas net dans votre esprit, parce que on vous posera ces questions. Alors, il ne faut pas répéter. Il faut que ce soit net. Et on peut le rendre net, hein, montrer que la foi chrétienne, parfaite et catholique, la catholique doit pouvoir le montrer. C'est pas le hasard qu'on soit catholique ou pas catholique, c'est un choix actuel qu'on fait. Je choisis actuellement d'être catholique. Dites pas, je suis catholique parce que mes parents sont catholiques, hein. Ce serait triste. Ça prouverait que votre foi, elle est vraiment très très liée aux traditions familiales. Et que c'est pas ça. La foi est un choix personnel qui vient de Dieu. Au-delà de tout atavisme. On est né de Dieu. Donc c'est relié directement. Donc il faut comprendre que être chrétien, c'est-à-dire être disciple du Christ, implique qu'on accepte tout ce que le Christ nous enseigne. Or, le Christ enseigne l'alliance avec Pierre. Cette alliance avec Pierre implique l'Église catholique. Oui. Bon, oui, dites.
Si le don de corps est essentiellement pour la fécondité,
oui.
Dans le cas où il y a l'empêchement de la fécondité, pour une raison physique,
oui.
Est-ce que le don des corps garde une finalité?
Oui, parce que vous ne savez jamais, de façon absolue. Il y a des cas où les médecins ont dit que vous n'aurez pas d'enfants, j'en connais plusieurs cas. Et au bout de 10 ans de mariage, ils ont eu des enfants. Marthe était merveilleuse pour ça. Mais elle avait le sens extraordinaire. Je me souviens, quelqu'un est venu comme ça. Ça fait partie de la... Beaucoup plus... Ça fait partie de la philosophie, après tout. Parce que ça, c'est des cas concrets. Tout à fait. C'est un garçon qui avait une histoire comme ça arrive assez souvent aujourd'hui, hélas. Il aimait quelqu'un, mais il ne savait pas du tout. Non, pas marié avec cette personne, mais il l'aimait. Puis d'arriver... Ce qui devait arriver, c'est-à-dire que la pauvre fille était enceinte. Elle a attendu un enfant. Alors, il a dit ça à sa tante, qui faisait une retraite à Châteauneuf, au 21 mars. Est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois épouser? Mais c'est la tendance fatale des gens. Ah oui, attends, oui, épouser là, tout de suite, on va rapide le mariage, on rapide tout. Vous savez ce qu'a répondu Marx? On ne fonde pas un mariage sur un péché. Ça, on me l'a répété directement. On ne fonde pas un mariage sur un péché. Qu'ils attendent que l'enfant soit né, la naissance de l'enfant. Et c'est la liberté d'un choix complet. Hein? C'est pas sociologique, ça. Comme argument. Et après, ils verront. Est-ce qu'ils s'aiment suffisamment pour fonder un foyer? Vous trouvez l'armoire de Marx extraordinaire. Et elle est du bon sens. On ne fonde pas un mariage du péché. S'ils pensaient se marier avant, alors qu'on accélère le mariage, c'est très différent. La décision était prise avant. Mais quand il n'y avait pas de décision de se marier. Oui. Mais c'est des points. Mais c'est là où on voyait que Marthe était une sainte. Parce qu'elle donnait la raison propre. Et de le faire retourner, il faut voir des cas, il faut voir un peu ce qui se passe. Donc, là, très simple. Et là-dessus, vous ne pouvez rien dire. Oui. Oui. Avant le mariage ou après le mariage? Oui. Et vous savez que le mariage ne peut pas. C'est le cas d'impuissance. Mais non. C'est évident. Ça fait partie des empêchements du mariage. Mais nous aurons qu'un an. Non, c'est pour ça que je dis, c'est extraordinairement précis. Le droit canon se fonde sur quelque chose de naturel. C'est pas une loi positive sans fondement naturel. Le droit canon précise des choses, très bien, il y a toujours un fondement naturel. Parce que la grâce ne détruit pas la nature. La grâce donne à la nature une orientation plus précise qu'elle n'aurait par elle-même. Elle ne la détruit pas. Elle prend ce qui est le plus fondamental dans la nature. Ça, c'est tout à fait différent. Marie s'est mariée avec Joseph avant l'Annonciation. Et Marie a sûrement fait son vœu sous condition. Le droit canon n'existait pas encore à ce moment-là. Si tel était le plaisir de Dieu. Et je suis sûr qu'elle a dit ça à Joseph. Si tel était le bon plaisir de Dieu. Et Dieu a répondu avant. C'est Saint Albert le Grand qui dit ça. Il dit que le vœu de la très sainte Vierge ne pouvait être que sous cet aspect-là, si tel était le bon plaisir de Dieu. Or, il est bien spécifié dans l'Écriture. qu'elle ne vivait pas encore avec Joseph. C'était les mœurs du temps. On se promettait mariage avant de vivre ensemble. Oui. Autrement dit, les fiançailles étaient considérées déjà comme un mariage. C'était le fruit d'un amour d'amitié. Et c'est pour ça que saint Thomas dit qu'entre Joseph et Marie, il y avait un véritable mariage. Et une amitié très grande, la plus grande amitié qui ait existé entre deux créatures. Elle est la première dans l'ordre de l'amitié, Marie. C'est merveilleux de comprendre ça. Ça nous l'a fait aimer encore un peu plus. Marie nous donne un sens de l'amitié au point de vue humain. Elle est modèle pour nous, pour ça. Elle fait comprendre la grandeur et la dignité et le respect qu'on se doit l'un par rapport à l'autre. On oublie trop ça dans la dévotion à Marie et le lien qu'on a avec elle. Mais elle nous éduque dans l'ordre de l'amitié. Et elle nous apprend à savoir ce que c'est que la véritable amitié. Alors, voyez, le don des corps, l'amour d'amitié entre l'époux et l'épouse implique le don des corps. Et ce don des corps est en vue de la fécondité. Il y a là un catoto absolu, c'est-à-dire un lien de nécessité. Il faut comprendre ce lien de nécessité, parce que c'est ça que nous montre la philosophie. Et c'est ce lien de nécessité qui sera et qui deviendra sacro-saint avec la grâce du mariage. Et l'Église nous le rappelle. L'Église ne cesse de le rappeler. Et elle précise quand il y a de nouvelles séductions qui risquent de mettre les choses à côté. C'était plus simple dans le temps où il n'y avait pas tous les procédés artificiels qui voulaient arrêter la procréation. Parce qu'on savait davantage ce que c'était qu'un acte humain. Maintenant, c'est camouflé par l'art. Oui. Mais c'est un art qui, à place d'être adjuvans naturam, est un art qui détourne de la finalité. Et parce que c'est un art qui détourne de la finalité, l'Église dit non. Prudent, au point de vue de la prudence, vous n'avez pas le droit d'accepter. Mais vous voyez, au point de vue de la prudence, il ne faut jamais oublier que toujours, quand l'Église précise certaines choses, on obéit dans la prudence. Et la prudence existe toujours. Je ne peux pas faire un acte de puissance sans la prudence. Autrement, je fais une obéissance aveugle. Je ne peux pas faire un acte de prudence, un acte de puissance sans prudence. Ce qui fait que vous ne pouvez jamais juger de l'extérieur un acte de puissance. Parce que vous ne pouvez pas comprendre la prudence de tel ou tel. C'est toujours très important, ça. L'Église donne des lois universelles. Et ces lois, on doit les appliquer prudentiellement. Alors, comprenons que le don des corps implique fécondité ou non-fécondité, puisque la fécondité échappe au dominium de l'homme. Il est naturel. L'homme n'a pas un pouvoir sur la fécondité. La fécondité relève de la nature. Il n'a pas de pouvoir modifier la nature. La fécondité n'est pas un acte personnel, vous voyez. Un acte libre personnel. Ça relève du point de vue de la nature. C'est pour ça qu'Aristote distingue l'appétit personnel et individuel pour le boire et le manger, et l'appétit sexuel en disant qu'il relève de la nature. C'est pour ça qu'il est plus véhément Et c'est pour ça qu'il réclame un contrôle prudentiel plus grand. C'est évident que la passion liée au point de vue de l'appétit sexuel est plus fort que l'appétit normalement au niveau de l'aliment. Il y a une véhémence plus grande parce qu'il relève de la nature. On doit être conscient de cela. Si il y a un amour d'amitié entre deux hommes qui est légitime, heureusement, c'est une amitié spirituelle, avant tout et en premier lieu. Cette amitié spirituelle implique des éléments sensibles. C'est la même chose pour deux femmes. Entre deux femmes, c'est la même chose. Implique des éléments passionnels et sensibles, c'est sûr. Ces éléments passionnels et sensibles peuvent très bien toucher un appétit sexuel, c'est sûr. Mais la prudence fait comprendre que là, il y a un désordre naturel. Et que ce désordre naturel fait que on touche à quelque chose qui n'est pas selon la nature. La nature de l'homme, sa finalité propre. Parce que la jouissance sexuelle est en vue de la procréation, est en vue de la fécondité. La jouissance sexuelle n'est pas en vue d'une détente organique. Je dis tout ça parce qu'il faut préciser aujourd'hui. Parce que psychologiquement, certains diront, bon, considérez ça tout simplement, détendez-vous, c'est tout. Psychologiquement, comme vous direz, faites une course. Ou, comme disait saint Augustin, prenez un bain. Alors on voit très bien qu'il faut bien comprendre les finalités des choses. Parce que si on ne comprend pas la finalité des choses, on ne voit pas. Et la prudence ne peut pas jouer. Il faut que la prudence joue dans ce domaine-là. Toute jouissance sexuelle est en vue de la procréation. Et n'est légitime que en vue de la procréation. Elle n'est pas légitime autrement. Alors, là, vous voyez, il y a quelque chose de très important à comprendre, que dans l'amitié qui peut exister entre deux hommes ou deux femmes, il faut qu'on soit prudent en sachant très bien qu'il peut y avoir un glissement. Et donc, ça fait partie tout simplement de cette auto-éducation. Alors on dira, parce que c'est ce que prétendent certains, n'est-ce pas, que l'homophilie a un fondement naturel. Il y en a qui sont nés pour ça, d'autres qui sont nés pour autre chose, pour l'autre aspect. Mais c'est faux de dire ça. Psychologiquement, c'est peut-être vrai, mais c'est pas vrai naturellement. Il peut y avoir des dispositions, c'est évident. Puisque toute amitié implique la similitude ou la complémentarité. Toute amitié, c'est comme ça. Amitié ou similitude ou complémentarité. Les anciens le disaient, Aristote et Platon ont commenté ça longuement. Ils se sont même demandé qu'est-ce qui était le plus parfait. Est-ce que c'est l'amour d'amitié du côté de la similitude ou du côté de la complémentarité? Je comprends très bien ça. Ça, c'est très légitime de regarder ça. Est-ce que vous aimez quelqu'un à cause de la similitude ou à cause de la complémentarité? Mais ceci, c'est de l'ordre des dispositions. C'est de l'ordre des qualités, vous savez. Parce qu'on a tous la même nature. Alors, on ne peut pas dire que c'est naturel. Dès que vous regardez le point de vue de la sexualité, vous regardez la complémentarité. Et vous voyez comment un amour spirituel peut assumer un amour instinctif en vue de cette complémentarité. Autrement, l'amour spirituel assume un amour sensible, c'est sûr. Dans tout amour d'amitié, il y a des éléments sensibles et passionnels. Autrement, c'est plus un amour d'amitié. Bon, c'est un amour stoïque. Je t'aime beaucoup, mais à distance. On gardera ces distances. Bon. On ne se touchera pas la main, c'est trop dangereux. C'est sensible. On ne s'embrassera pas, c'est sensible. Alors on garde ces distances. On va avoir une canne. Bon, on est, il est dehors. Bon. On va jusqu'où on peut s'approcher. Alors. Ça, c'est l'amour stoïcien où la passion est mauvaise. On n'a jamais dit que la passion était mauvaise. Un élément sensible. Tout amour d'amitié implique des éléments sensibles. Mais il faut que ces éléments sensibles soient assumés par le point de vue spirituel, par la vraie finalité. Et c'est justement en voyant comment le sensible est assumé et que ce n'est pas le sensible qui détermine. Vous voyez, dans l'homosexualité, où on veut montrer que c'est quelque chose de naturel, on dit que c'est le sensible. Et que c'est l'instinct qui détermine. Il ne détermine jamais un acte humain. L'acte humain n'est jamais déterminé par le sensible et par la passion. Le sensible et la passion ne font que disposer. Mais ne déterminent pas un acte humain. L'acte humain est déterminé par par sa finalité propre. Et la finalité propre, c'est la personne humaine. Qu'on aime pour elle-même. Vous voyez, la confusion, c'est de confondre disposition et finalité. Toujours la même confusion. C'est une distinction qu'on doit arriver à faire et qu'on peut faire, et qui est importante, qui est même capitale. On libère les gens de la hantise de l'homosexualité en précisant ces choses-là. Parce que la psychologie ne peut pas le préciser, puisqu'il n'y a pas de finalité. On regarde le comportement. Ah, vous pouvez avoir des tendances beaucoup plus fortes du côté de la similitude, ou des tendances beaucoup plus fortes du côté de la complémentarité. C'est pas naturel, ça. Ça vient tout simplement du comportement de chacun. Ou de l'éducation. C'est très vrai, c'est ce qu'on dit souvent, du reste. L'éducation joue un rôle très important dans ce point de vue-là. On a vu des mésententes terribles entre ses parents. Ça ne nous a pas apporté beaucoup à comprendre qu'il y a de complémentarité dans l'amour d'amitié. Quand un homme bat sa femme, aux yeux de l'enfant qui voit ça à 3 ans ou à 4 ans, bah, ça fait un petit choc psychologique. Parce qu'il est lié à l'un ou à l'autre, et de voir qu'il y a de cette lutte. Alors ça fait des refoulements. Il ne peut pas être autrement. Ça fait un mécontentement intérieur. Ça fait un désordre intérieur. Il faut progressivement rétablir par la vérité. Et la vérité, c'est justement comprendre exactement où se situe l'amour d'amitié. Au point de vue humain, je ne parle pas au point de vue surnaturel ici. Je parle au point de vue humain. Mais c'est capital de comprendre ça. Au point de vue purement humain. L'autre problème aujourd'hui, au point de vue de la procréation, c'est ce problème tout à fait récent. Vous voyez, ce que j'ai traité là fait tout de suite comprendre comment l'Église peut dire non, pas la pilule. Puisque ce serait mettre un dominium humain là où il n'y a pas de dominium. Ce serait mettre un dominium humain sur la fécondité. Donc c'est une usurpation, c'est donc un orgueil. Mais c'est même beaucoup plus grave que la simple jouissance, c'est mettre un orgueil. Parce que c'est vouloir dominer là où on ne peut pas dominer, où l'homme ne domine pas. Alors, la grande question d'aujourd'hui, c'est la question du justement, de la fécondation artificielle. In vitro. La fivette, comme on dit. Et l'enseignement qu'a donné Ratzinger. Il l'a donné comme un enseignement. Faut pas l'oublier. Pour que on puisse mieux comprendre ce que l'Église nous demandait. Avec exactitude, précision. Il faut pouvoir, là encore, expliquer au plan philosophique que l'Église, en faisant ça, n'usurpe pas, mais rappelle des exigences profondes que la plupart, aujourd'hui, ne voient plus. Il y a quelques années, le clerc, vous savez ce que c'est que le clerc à Paris ? C'est ce groupe de médecins et de foyers qui reçoivent des jeunes fiancés, des jeunes ménages, pour les aider à mieux comprendre la doctrine de l'Église. Le président du clerc de Paris m'avait demandé de venir en me demandant de traiter cette question avant que l'Église n'en parle. Et j'avais été alerté par pas mal de médecins qui poser des questions. Et un de ces médecins que je connaissais bien, qui faisait partie du clerc, avait demandé qu'on expose la question. Alors je leur avais dit, l'Église n'a encore rien dit. Mais si l'Église dit quelque chose, vous pouvez être sûr que l'Église dira ça. Alors je vais traiter la question non pas du côté de la foi, mais uniquement du côté philosophique. Il y avait 7-8 médecins. J'ai essayé d'expliquer ce que nous allons faire ensemble. Sans regarder ce qu'a dit Ratzinger. Uniquement au plan philosophique. Il y a un problème philosophique qui m'intéresse moi depuis 10 ans, depuis qu'il y a ces fécondations artificielles pour les animaux. C'est le bouvier du coin. Qui était bouvier d'une ferme de 1000 vaches, qui m'entretenait beaucoup de ces choses-là. Ça m'intéressait beaucoup, parce qu'un bouvier était sur le terrain des vaches. C'est le cas de le dire. Alors il disait des choses, mais extraordinairement sensées. J'aurais aimé que beaucoup de médecins écoutent ce qu'ils disent. Alors je me suis placé d'un point de vue purement philosophique pour montrer qu'on ne pouvait pas l'accepter philosophiquement parlant si on va jusqu'au bout dans une éthique d'amour, d'amitié, on ne peut pas l'accepter. Alors cinq de ces médecins ont dit, si un jour l'Église prend ce que vous dites comme règle de conduite pour les médecins catholiques, je quitte l'Église. Cinq ont dit ça. Et qui étaient les conseillers du clerc? En disant, nous le faisons depuis 5 ans, et c'est efficace. Je dis, mais c'est pas une raison que c'est efficace. Il y a un livre qui vient de paraître. C'est le docteur Lafont qui me l'a montré. Et de recevoir. Celui qui a lancé, justement, ce point de vue de la fécondation artificielle, la vivette, en France, qui au bout de 10 ans, commence à dire attention, attention. Et c'est un livre qui est écrit avec le concours de toute une série de médecins, qui paraît-il est très intéressant. Ce qui montre, alors, presque, j'allais dire, oui, en énonçant une nouvelle morale. Bon, c'est très intéressant parce que cette nouvelle morale, c'est la morale que nous disons. C'est-à-dire une morale de l'amour. Pour eux, c'est une nouvelle morale, qui est la morale du devoir, la morale de l'amour. intéressant, tu vas te voir combien la morale du devoir est défaussée. Parce que la morale du devoir ne peut se comprendre que dans une morale de l'amour et du bonheur. Mais c'est intéressant, vous voyez. Et il se met lui-même, c'est ce que me disait le docteur Lafont, il se met lui-même dans une position marginale. Ce serait un livre qui serait intéressant à lire ensemble, au plan purement philosophique. Parce qu'il donne un tas d'expériences réfléchissant sur ce point de vue-là. Je vous en donnerai la référence exacte. Il reste peut-être que facilement les médecins peuvent la voir et la comprendre ce que ça représente. Ça vient de paraître. Alors, essayons de comprendre au plan purement philosophique. J'étais en même temps en contact avec quelqu'un qui fait une thèse de psychanalyse là-dessus, qui est un prêtre qui en 68 a quitté. Puis il est revenu. Pendant le temps qu'il a quitté, il a fait la psychanalyse, comme beaucoup de prêtres qui sont partis. Ils sont mis à faire la psychanalyse. Maintenant, il revient. Il n'a pas perdu la foi, du reste. Et il continue. Alors le cardinal l'a laissé très libre. Il continue. Et fait une thèse qui m'intéresse beaucoup. Sur ce point de vue-là, comment ce point de vue des donneurs crée des silences absolus au sein du foyer. On n'en parle jamais. Donc, crée un mur par rapport à l'amour d'amitié. Il a vu 100 cas. Déjà pas mal. Déjà édifié une petite enquête inductive. Alors, il m'en avait parlé il y a 4 ou 5 ans, je crois. Il m'avait dit, qu'est-ce que vous dites, vous, là-dessus? Alors, j'avais essayé d'expliquer philosophie. Il m'a dit, oh, vous êtes sévère. La philosophie demande une rigueur si on veut maintenir une attitude humaine vraie. Il est revenu il y a un an. Il m'a dit, vous aviez raison. Maintenant, je suis tout à fait d'accord avec votre position. Et c'est cette étude psychanalytique qui m'a conduit à ça. Parce que je vois que ça fait des dégâts effrayants. Et de mon côté, j'avais appris que dans un foyer, il y avait eu cette expérience de la vivette. Ça avait hâté le divorce. Il y avait déjà une pente. Mais c'est très curieux de voir que les foyers chrétiens qu'on connaît et qui appliquent cela n'osent plus jamais rien dire aux prêtres. Mais ça crée des silences. Je connais comme ça un foyer que j'aime beaucoup. J'ai béni leur mariage. Mais un recoupement, facile à comprendre. Je suis quasi certain. Jamais un silence. Ça crée une gêne. Vous voyez ? Est-ce qu'il signe psychanalytiquement ? Il y a quelque chose qui ne va pas. On n'a plus la même lucidité. On exprès ces exemples. À titre inductif, c'est intéressant de voir ça. Il faut une documentation dans ce domaine-là. Il y a la plus grande documentation qu'on peut avoir. Parce que c'est quand même très important de voir le point de vue de l'expérience, voir ce que peuvent dire les médecins, voir que le critère d'efficacité n'est pas un critère moral. Ça, on peut le comprendre tout de suite. Les médecins ont beaucoup de peine à le comprendre. C'est peut-être un argument merveilleux de propagande, mais pas moral. Essayez de comprendre alors qu'est-ce que ça veut dire au plan philosophique. Nous essaierons de comprendre ça la fois prochaine.